RFI, les 21h, ici à Paris, 23h, à Deraa, en Syrie.
Martin Guez.
En Géorgie, le pouvoir pro-russe nomme un président pro-russe, à savoir l'ancien footballeur Mikhail Kavelashvili. Les manifestants pro-européens ne s'avouent eux pas vaincus et ont même remporté une petite victoire lors de la bataille du sapin de Noël. Anissa Al-Jabri vous explique tout en début de journal. En Syrie, nous serons à Deraa, ville du sud et berceau de la révolte de 2011. Deraa qui revit depuis la chute de Bachar el-Assad. Vous entendrez le témoignage bouleversant d'un habitant qu'a rencontré Mohamed Erami. En France, le cyclone Chido fait des ravages à Mayotte. Au moins 2 personnes sont mortes. La France où a également lieu ce soir la 95e élection de Miss France. Une intelligence artificielle donne Miss Guadeloupe gagnante. À vérifier ce soir donc. En Géorgie, Mikhail Kavelashvili est désormais le président du pays, désigné ce samedi par un collège électoral dominé par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien. L'ancien footballeur de 53 ans, qui doit relayer l'actuel chef de l'État, la pro-occidentale Salomé Zourabichvili. Et ce alors que le pays traverse une profonde crise politique depuis les élections législatives du 26 octobre. Élections truquées selon l'opposition. Depuis, les manifestations pro-européennes se succèdent. Mobilisation sévèrement réprimée par le pouvoir en place. Un bras de fer qui dure et que le Rêve géorgien voulait remporter ce soir en annonçant une cérémonie pour installer un sapin de Noël géant sur la place en face du Parlement. Exactement là où les contestataires ont pris l'habitude de se retrouver ces 3 dernières semaines. Et le pouvoir qui a finalement dû reculer, Anissa Al-Jabri.
La façade du Parlement était recouverte d'une animation lumineuse, des flocons de neige sur fond violet, la couleur du parti au pouvoir, le Rêve géorgien. Était monté sur scène un micro pour une prise de parole du maire, celle aussi d'un prêtre réputé ultra-conservateur. Sauf que la fête de Noël avait bien des allures de rapport de force assumé, ambulance, canon à eau, force anti-émeute positionnée. Le sapin était, lui, entouré de barrières gardées par des policiers cagoulés. En face d'eux, une foule de contestataires venus avec des sifflets, lançant des huées, portant à bout de bras des photos de manifestants au visage tuméfié par les coups, criant aux forces de l'ordre « Félicitations ». Le face-à-face n'a pas duré plus d'une grosse demi-heure avant que le visage du maire ne s'affiche sur les écrans de télévision. Kari Kaladze, en moins de 3 minutes, a annoncé renoncer à la cérémonie, plaçant, je cite, « la responsabilité sur une opposition radicale qui a franchi toutes les limites et classique rhétorique du pouvoir géorgien, jugeant, je cite encore, « aujourd'hui est un bon exemple montrant que le fascisme libéral en Géorgie doit être stoppé. Les contestataires ont appelé cela une petite victoire face à un pouvoir qui ne donne aucun signe de fléchissement ni d'ouverture. » Anissa El-Jabri, Tbilissi, RFI.
En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky affirme que des troupes nord-coréennes combattant pour la Russie seraient passées à l'attaque dans la région russe de Koursk, région occupée par l'armée ukrainienne. Environ 10 000 soldats venus de Corée du Nord seraient actuellement dans la zone. Au Proche-Orient, le Hezbollah libanais reconnaît ce soir avoir perdu sa ligne de ravitaillement militaire via la Syrie, et ce depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition rebelle, dominée par le groupe islamiste Ayatollah al-Sham, des rebelles qui ont fait tomber le régime de Bachar el-Assad dimanche dernier. Et hier, partout dans le pays, des scènes de liesse ont éclaté, notamment à Deraa, berceau du soulèvement de 2011. Les habitants de cette ville du sud du pays redécouvrent peu à peu le goût de la liberté. À l'image du Kousei Sayasna, il n'avait que 10 ans lors des premières manifestations à Deraa. Arrêté par le régime de Bachar el-Assad, battu, torturé, il témoigne aujourd'hui depuis la place de la mosquée Omari, l'un des symboles de la révolte de 2011. Témoignage auprès de notre reporter Mohamed Erami.
Kusei Sayasna, 20 ans, erre sur la place de la mosquée Omari, au centre du gouvernorat de Deraa, dans le sud de la Syrie, essayant de rassembler des photos des moments de la première révolution syrienne, il y a 14 ans, exigeant la liberté, qui a réussi aujourd'hui à renverser le président Bachar el-Assad.
Je suis l'un des enfants de Deraa qui a participé à la révolution de 2011. J'ai été arrêté, battu, torturé, mais j'ai continué à participer à la révolution jusqu'à la chute de Bachar el-Assad. Me voici moi aujourd'hui à Deraa, marchant sur la place de la mosquée Omari, mais cette fois je goûte la saveur de la liberté, cette liberté dont Bachar el-Assad nous a privés. La liberté est venue après les massacres et les destructions aux mains de Bachar el-Assad, mais à la fin nous avons obtenu la liberté que nous réclamions il y a 14 ans.
Debout, au même endroit où il se trouvait lorsqu'il avait l'âge de 10 ans, Kusei nous raconte comment l'armée et la police ont abattu des dizaines de personnes dans sa ville simplement parce qu'elles réclamaient la liberté.
Je n'oublierai jamais que nous avons été torturés et battus à de nombreuses reprises. Ils utilisaient un bâton avec des clous en fer. Chaque personne qui sortait et disait que Dieu était grand ou que le peuple voulait renverser le régime était accueilli par des balles réelles. Je suis allé moi directement en prison, mais je suis très heureux que nous soyons débarrassés du régime de Bachar al-Assad.
Depuis 2011 et le début de la révolution syrienne et des conflits armés qui ont suivi, plus de 8 millions de Syriens ont été déplacés de leur pays. Mohamed Erami, Daraa, RFI.
RFI 5h05 à Séoul, en Corée du Sud, où les députés ont finalement destitué le chef de l'État Yoon Suk-yeol après une première tentative le week-end dernier. Cette nouvelle motion devait réunir au moins 200 voix. L'opposition, qui dispose de 192 députés, a réussi à convaincre 12 élus du camp présidentiel de voter avec eux, ce qui a fait exploser de joie des dizaines de milliers de manifestants massés à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Yoon Suk-yeol, qui avait tenté d'imposer la loi martiale dans le pays début décembre, un coup de force raté qui a coûté son poste au président de 63 ans, élu en 2022. Et puis loin de Séoul, direction Riyad, en Arabie Saoudite, où la COP16 sur la désertification s'est achevée la nuit passée. Une convention qui se termine sur un échec et sans accord contraignant, tandis que de nombreux pays africains notamment réclamaient un nouveau protocole sur la sécheresse. Dans son discours de clôture, le Mauritanien Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, a expliqué que les différentes parties n'avaient pas eu assez de temps, au grand regret de Patrice Burger. Il est président du CARI, association qui lutte contre la dégradation des terres.
Pour moi, tout ça n'est pas assez pris au sérieux par la communauté internationale, et aussi bien au niveau du climat qu'au niveau de la biodiversité, qu'au niveau de la lutte contre la dégradation des terres. Je pense qu'on n'est pas du tout ni au rythme nécessaire, ni dans la prise de conscience nécessaire, et encore moins dans l'action nécessaire pour faire face à ça. Les décisions qui sont prises actuellement ne sont pas du tout à la hauteur de l'urgence et de l'injonction qui nous est faite en tant qu'humains, en tant qu'humanité. Et malheureusement, les plus faibles vont encore continuer de payer un prix fort dans les années à venir jusqu'à ce que, véritablement, nous soyons mis au pied du mur, pays du Sud et pays du Nord confondus, au pied du mur des nécessités biologiques de notre survie même. Là, peut-être les décisions seront prises.
Propos recueillis au téléphone RFI d'Élodie Papin. L'actualité en France, à présent, est le cyclone Chido qui a fait au moins 2 morts à Mayotte. Météo France a relevé des rafales de vent à 226 km/h. Le nouveau Premier ministre français François Bayrou qui a convoqué ce soir une réunion de crise avec le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui a d'ailleurs déclaré il y a quelques instants craindre un bilan humain bien plus lourd. Il doit se rendre d'ailleurs à Mayotte. L'heure est à l'urgence, a lui écrit le président Emmanuel Macron sur le réseau social X. Et puis sur une note beaucoup moins urgente, beaucoup plus légère, direction Dijon, dans l'est du pays, où a lieu ce soir la 95e élection du concours Miss France. Une trentaine de candidates s'affrontent et les dés sont peut-être déjà joués d'avance. Depuis 7 ans, une intelligence artificielle prédit les chances de victoire des reines de beauté. Et cette année, c'est Moïra André, Miss Guadeloupe, qui devrait l'emporter. Elle a 68% de chances de gagner, Dominique Dezonné.
Le cabinet de conseil aux entreprises Avisia, spécialisé en data et innovation, a analysé par IA plus de 100 000 messages sur les réseaux sociaux pour évaluer la capacité de chaque candidate à mobiliser ses électeurs grand public en prévision du grand soir. Pour affiner ses résultats, le cabinet s'est servi pour la première fois d'une IA générative qui était capable de comprendre le sens des messages publiés par les internautes, précise Pascal Bizarri, directeur général délégué d'Avisia.
On va détourner l'intelligence des modèles d'IA générative. Par exemple, on a des posts qui mélangent du français, de l'anglais et des emojis. Un internaute qui va dire Miss Nord-Pas-de-Calais et saut emoji feu, qui veut dire plutôt sexy, quelque chose de positif, va permettre de qualifier beaucoup plus finement la cote de popularité de nos Miss.
Ce programme développé pour les concours de Miss France s'adapterait facilement aux besoins des entreprises et des marques désirant analyser par exemple les réactions des internautes sur une nouvelle campagne de pub. Toutefois, prévoir le résultat d'une élection plus complexe comme une présidentielle n'est pas encore à la portée des IA génératives, mais la vitesse à laquelle elle se perfectionne laisse présager que c'est peut-être pour bientôt.
Dominique Dezonné, et si les parieurs se ratent sur Miss France, ils pourront toujours tenter leur chance en football avec la suite de la 15e journée de Ligue 1. Monaco se déplace actuellement à Reims, pour l'instant 0-0. Monaco qui peut prendre seul la deuxième place du classement puisque Marseille était tenu en échec par Lille. Un partout tout à l'heure. Moi je vous laisse avec Laurent Saloir et Musique du Monde. Excellente soirée à l'écoute de RFI.